Radio Galaxy 98.5.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de nous rejoindre sur le 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse. Nous allons parler aujourd'hui énergie. En ce moment, c'est la série des énergies parce qu'il fait très chaud, on a besoin d'énergie pour se rafraîchir, l'hiver c'est pour se réchauffer. Et là, je suis avec des représentants de Enedis. On accueille le nouveau directeur territorial Enedis sur notre secteur, monsieur Jacques Fessel. Jacques Fessel, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et Dominique Pontrouge. Dominique, bonjour.
Bonjour à tous.
Jacques Fessel, vous êtes directeur territorial d'Enedis sur notre secteur. C'est quoi un directeur territorial?
Alors, directeur territorial, en effet, depuis quelques mois, et j'ai le plaisir du coup de rejoindre les équipes qui aujourd'hui œuvrent sur le territoire avec les communes, avec les communautés de communes, pour justement expliquer nos métiers, partager avec eux les problématiques techniques qu'ils peuvent rencontrer eux de leur côté, et essayer de trouver des solutions pour leur raccordement, pour leur développement, pour leurs projets.
Enedis a deux fonctions. C'est la branche de raccordement EDF pour le particulier et les petits consommateurs, j'allais dire. Et la deuxième fonction, c'est aussi un vendeur d'électricité.
Alors, Enedis est exclusivement un distributeur d'électricité. Donc, on assure en fait simplement la jonction entre les réseaux de transport, donc les réseaux à forte puissance, et on emmène en fait cette électricité de forte puissance jusqu'au compteur de chez vous, tout simplement, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, vous avez besoin d'électricité. Bon, on est là, on vous amène le courant jusque chez vous. En fait, notre mission est unique. En tout cas, notre proximité, notre enjeu, notre règle, notre principe, notre mission, c'est d'amener l'électricité jusqu'à chez vous, au plus profond des maisons.
Vous distribuez donc l'électricité qui vient des lignes à haute tension, des très grosses puissances sur les réseaux particuliers. La répartition entre l'entreprise et le particulier, c'est quoi chez vous?
Alors, on a déjà trois segments de clients, en fait. Hein, donc, les particuliers, vous l'avez cité, Bruno. Les professionnels, donc les boulangers, les artisans qui aujourd'hui consomment l'énergie en puissance, on va dire, limitée. Et puis, on a les grands consommateurs, les grands clients qu'on appelle clients entreprises qui, en fait, consomment eux, beaucoup, beaucoup d'énergie.
Donc, vous distribuez l'électricité. Un, deux, vous récupérez l'électricité également de ceux qui en produisent pour la réinjecter sur le réseau.
C'est vrai qu'on a, on a une mission hein, que j'ai décrite de distribution d'électricité. Mais depuis quelques années, on a un développement extrêmement important des énergies renouvelables qui se connectent non pas au réseau de transport, mais qui se connectent directement sur notre réseau pour qu'on puisse acheminer leur énergie vers le particulier, vers le professionnel, vers l'entreprise. Et du coup, on a depuis quelques années une grande production d'énergie renouvelable, donc notamment, qui est injectée dans nos réseaux.
Les panneaux photovoltaïques au-dessus des maisons, des hangars, etc. Les éoliennes et tous ces nouveaux modes de production.
Tout à fait, et on a un essor extrêmement important. Dans les années 2000, ça a commencé, mais aujourd'hui, on connaît une croissance fulgurante hein, du nombre de connexions, de demandes de raccordement de ces petites productions, en effet, comme vous l'avez dit, sur les toitures, sur les parkings, les ombrières de parking, etc., qui se raccordent à nos réseaux de distribution directement.
Sachant que l'Occitanie est quand même un territoire qui est très excédentaire sur cette production, je crois.
Complètement. La Haute-Garonne est dans le premier, ou dans les premiers, mais je pense le premier, département en termes de croissance de production des petites énergies renouvelables.
Ça vous pose un problème, ça, qu'il y ait autant de nouveaux arrivants, de nouvelles sources de production?
Alors, notre métier, c'est de raccorder. Donc, ça ne pose pas de problème à partir du moment où on a prévu depuis plusieurs années cette croissance. On travaille en grande proximité avec RTE, hein, le transport, qui, lui, va acheminer ces électrons complémentaires de nos réseaux vers d'autres régions. Donc, on travaille ensemble avec RTE. À partir du moment où on a identifié cette croissance, et ça fait quelques années qu'on l'avait anticipé, il y a un fort développement du réseau. Ça nous pose évidemment des questions techniques, mais auxquelles on répond au fur et à mesure des années avec des programmes d'investissement extrêmement importants.
Dominique Pontrouge, donc, vous êtes plutôt sur l'aspect technique de Enedis, je crois. Ces fortes chaleurs, est-ce qu'elles ont une influence sur le réseau, sur les infrastructures?
Oui, bien sûr, le réseau subit ces fortes chaleurs. Pendant ces périodes-là, on a vraiment une différence et une distinction entre le réseau aérien et le réseau souterrain. En fait, paradoxalement, le réseau souterrain souffre plus de la chaleur qu'on ne l'imaginerait. Ce qui se passe, c'est qu'il subit des contraintes, qu'elles soient électriques et mécaniques, qui sont liées en fait au fait que le sol ne refroidit pas Et notamment la nuit, les sols ne se refroidissent pas comme on l'a habituellement. Mmh. Et du coup, les câbles subissent des contraintes
de dilatation.
Mmh. Bien sûr, comme les sols sont chauds, ils bougent. Donc, il y a des contraintes sur les accessoires et des contraintes mécaniques qui peuvent entraîner des incidents avec des coupures d'électricité. Et donc, dans ces périodes-là, on renforce notre vision, notre astreinte. On renforce en fait la surveillance du réseau et l'accompagnement du réseau en temps réel pour pouvoir limiter au maximum les conséquences de ces incidents et réparer le plus rapidement possible en toute sécurité.
Jacques, je voulais juste préciser que nos réseaux, ils ont pour certains été posés dans les années 70 notamment. Hein, je parle de certains câbles qu'on a mis en souterrain, Dominique les a cités. Ce sont des câbles qui, à l'époque, ont été posés alors qu'il n'y avait pas ces contraintes, il n'y avait pas ces fortes chaleurs, aussi importantes en tout cas qu'aujourd'hui. Lorsqu'ils ont été posés, il faisait beaucoup moins chaud, les sols se réchauffaient moins. Et donc, c'est surtout un certain type de câble des années 70 qui souffre de ces chaleurs. Aujourd'hui, on pose des câbles synthétiques qui sont prévus pour des chaleurs bien plus importantes parce qu'on sait aujourd'hui que les aléas climatiques vont augmenter, parce qu'on sait que les chaleurs vont augmenter. Et donc, on pose du matériel qui est très adapté, dans le futur en tout cas, à des hausses de température.
Mais Dominique, je reviens vers vous une minute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des outils de surveillance des réseaux qui ont évolué aussi, j'imagine, pour ces tensions physiques des câbles qui bougent entre s'il fait chaud, s'il fait froid, etc. S'il y a des micro-coupures à certains endroits, vous avez des appareils et des gens qui surveillent tout ça.
Oui, tout à fait. On a un suivi du réseau quasiment en temps réel. Hein, aujourd'hui, que ce soit de l'amont au niveau de ce qu'on appelle un poste source, qui est le point de raccordement entre le réseau RTE et Enedis, ou jusqu'à l'aval, et c'est le compteur Linky, par exemple, qui me permet aussi d'avoir des retours d'informations. Tous ces éléments-là, hein, on parle de réseau intelligent, de smart grid, et aujourd'hui, faut le savoir, hein, Enedis, c'est pour la troisième année consécutive, et considéré comme le meilleur réseau intelligent au monde. Et en fait, tout ça, ça nous permet de suivre le réseau et d'être au plus près de l'événement. En fait, notre objectif principal, c'est de maintenir la fourniture d'électricité en permanence. Mmh. Et donc, tous ces éléments-là nous permettent en fait, d'essayer d'être présents et d'être au plus près d'un événement, d'un incident. On parlait de la canicule, on peut parler aussi des orages hein, sur le réseau aérien. En cas d'orage, on voit que la végétation, les arbres sont fortement endommagés, on peut avoir des branches, des arbres qui tombent, et il faut que nos réseaux déjà soient suffisamment résilients pour résister à ça, et quand malheureusement un arbre, par exemple un platane ou un chêne tombe sur une ligne, on peut imaginer que c'est compliqué que la ligne tienne le choc, mais par contre l'objectif c'est bien d'identifier le siège de cet incident au plus près, le plus rapidement possible pour réalimenter les clients et ensuite pouvoir venir réparer l'endroit où la ligne a été abîmée.
Chez vous aussi, les métiers changent. C'est-à-dire que d'une part, vous avez encore des métiers physiques se déplacer sur place pour remettre en place des pylônes, des poteaux, tirer du câble, etc. Mais aussi des métiers plus intellectuels, entre guillemets, j'allais dire, pour surveiller les réseaux, comprendre les ordinateurs et le fonctionnement de vos machines.
Bien sûr, comme je le disais, on a des métiers qui sont aujourd'hui plus dans la surveillance, dans l'amont en fait, qui sont aussi de l'analyse pour faire... Enfin, le terme est peut-être pas idéal, mais faire de la prévision, c'est-à-dire essayer d'anticiper, de prévoir la panne. Mmh. Vous voyez, pour une certaine part, on essaye aujourd'hui, à travers l'auscultation des réseaux, de pouvoir identifier des zones sur des câbles de première génération, des câbles d'ancienne génération qui pourraient être incidentogènes. Et on sait qu'il y a, avant l'incident, des signes précurseurs.
Des micro-coupures ou voilà, une faiblesse de la tension.
Ça, ce qu'on on peut appeler aussi des excursions de tension, des variations, qui peuvent nous aider à anticiper, à identifier, à se dire sur cette zone, on a quelque chose et il faut peut-être intervenir avant la panne.
Il faut dire que depuis ces deux périodes de canicule qu'on a connues, nous n'avons quasiment connu aucune problématique sur le réseau. Donc on a bien sûr de la surveillance à assurer, de la mobilisation de ressources qu'on maintient en cas éventuel de crise, mais aujourd'hui, en tout cas, sur le périmètre d'Enedis de la Haute-Garonne, on a très peu d'événements qui impactent du coup la qualité de fourniture des consommateurs, des ménages et des industriels aussi. On a un réseau qui résiste très bien même jusqu'à maintenant. Évidemment, c'est pas le hasard, hein, ça nécessite quand même une mobilisation de tous. Même si nos métiers de prévision sont de plus en plus développés, on garde aujourd'hui en grande proximité des voitures en bleu, vous les croiserez partout sur les routes, on est présent dans toutes les communes, on est partout en fait où on doit intervenir. L'immense majorité de nos effectifs sur la Haute-Garonne sont au service des clients sur le terrain et réalisent des activités techniques sur le terrain. D'ailleurs, on recrute ce type de profil, donc si vous êtes dans des métiers proches de l'énergie et de l'électricité, on est particulièrement intéressé.
Ces réseaux sont sensibles, on a aussi donc des règles de sécurité à respecter. Chez les particuliers, par exemple, on parle des arbres qui tombent, etc. Vous avez, vous, en tant qu'Enedis, des préconisations, des recommandations à donner aux citoyens ?
Oui, tout à fait. Sur les règles de sécurité, il faut avoir à l'esprit, en fait, que quand vous voyez un câble, quel qu'il soit, il ne faut jamais présager de savoir s'il est sous tension ou hors tension. Un câble peut être sous tension, on ne sait pas. On ne sait pas les différencier. Et donc, vaut mieux éviter de toucher pour avoir la confirmation. Le principe de base en termes de sécurité, c'est si vous voyez un câble à terre, si vous voyez quelque chose qui vous paraît pas normal, hein, on parlait en cas d'orage, de coup de vent ou autre, si vous voyez des câbles, surtout ne pas les toucher. Gardez les gens à distance, et à distance ça veut dire plusieurs mètres, on parle d'une dizaine de mètres, et de prévenir les services. Alors ça peut être les pompiers, ça peut être le service Enedis, le centre d'appel d'épanage d'Enedis, hein. Et on a un numéro d'appel d'épanage qui fonctionne 24 heures sur 24, mais par principe, ne jamais toucher.
Vous parlez des arbres aussi, il y a des arbres qui grandissent, qui peuvent parfois toucher des lignes, des câbles, qu'est-ce qu'on fait ? À qui est la charge déjà ?
Là, on parle d'élagage à proximité des lignes électriques. Alors, il y a des distances à respecter entre la végétation et nos lignes électriques, ces distances sont de l'ordre de 3 mètres. Le principe sur l'élagage, c'est que il faut regarder à la fois la position de la ligne, est-ce qu'elle est en domaine public, domaine privé, et la position de l'arbre. Pour faire très simple, si vous avez dans votre jardin un arbre, il vous appartient, c'est à vous à élaguer de façon préventive pour éviter que les branches de cet arbre ne rentrent dans les 3 mètres autour de la ligne.
Même chose que lorsque je fais les travaux, je crois, il y a des déclarations particulières à faire.
Tout à fait. C'est vrai qu'en temps particulier, on n'est pas trop habitué. Mais quand vous faites des travaux, que ce soit chez vous ou sur votre façade, sur le domaine public, une entreprise ou un particulier se doit de faire ce qu'on appelle une déclaration de travaux. Et donc, il existe un site internet pour pouvoir faire sa déclaration, ce qui permet d'interroger, en fait, via ce portail, tous les gestionnaires de réseau, que ce soit donc l'électricité, l'eau, les télécoms, qui vont répondre s'il y a du réseau à proximité. Donc, quand on fait un trou, même dans son jardin, ça peut être des informations intéressantes pour savoir ce qu'il y a dans le sous-sol avant de faire des travaux, ou ne serait-ce que quand vous faites des travaux de façade. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui de rénovation ou d'isolation par l'extérieur, ou s'il y a du réseau, ne serait-ce que votre branchement sur la façade, il y a quand même des précautions à prendre, donc des questions à se poser, des questions à poser à Enedis.
Dernière question pour vous, Jacques. Vous avez fait un tour de France dans votre carrière professionnelle dans le monde de l'électricité et des énergies. Quelle est la spécificité, la particularité de la Haute-Garonne pour vous ?
Alors la Haute-Garonne, c'est un département qui est particulièrement dynamique, dans tous les sens du terme pour l'énergie en tout cas. Dynamique parce qu'on a beaucoup de consommation, on a un développement, alors bien sûr dans le nord de la Haute-Garonne avec Toulouse, qui est en progression constante, ça se trouve pas partout. Donc on a des réseaux urbains très denses, souterrains. Est important, donc une croissance d'abord de consommation dans la Haute-Garonne. Et on a dans le même temps un des départements les plus actifs, on l'a dit tout à l'heure, plus actifs en matière de production d'énergie renouvelable, de petites énergies renouvelables, qui en fait un département qui a ces deux particularités de réseau, un réseau qui consomme beaucoup et un réseau qui produit beaucoup.
Et Dominique, si je veux plus d'informations sur Enedis, si je veux trouver un poste, on en parlait tout à l'heure, si je dois rechercher des informations sur quels sont les prestataires, quels sont vos services, je vais où, je fais comment ?
Alors le plus simple, c'est le site internet Enedis, donc www.enedis.fr.
Messieurs, merci beaucoup d'être venus sur Radio Galaxy.
Merci Bruno.
Merci Bruno.
La radio qui vous accompagne, c'est Radio Galaxy sur 98.5 FM.